I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine ? C'est elle qui est derrière le compte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir. Mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère. L'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation. Celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement, qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé. Mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
Merci Charlotte.
Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qui sont tes enfants ?
Alors, donc je m'appelle Madeleine, je vis en région parisienne depuis 10 ans après avoir grandi en Alsace.
D'accord.
J'ai 32 ans, je suis maman d'un petit Félix qui a 2 ans et demi. Mmh. Je suis mariée à un illustrateur belge.
Très bien.
Et dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, depuis un peu plus d'un an, je tiens le compte Postpartum ta mère sur Instagram pour un peu amener de la bienveillance et déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum.
Ok. Et ô combien c'est utile.
Ouais, ça manquait.
Madeleine, si on se parle aujourd'hui, c'est pour parler d'allaitement, puisque tu as allaité ton petit Félix. Oui. Est-ce que tu peux me rappeler combien de temps est-ce que tu l'as allaité ?
Je l'ai allaité 4 mois.
D'accord. Comment ça s'est passé pour toi, l'allaitement ? Comment ça a démarré ? Est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur ? Ou alors est-ce que c'est un truc que tu t'es dit, bon tiens, on va tenter sur un malentendu, ça peut être sympa. Raconte, sur quelle base tu partais ?
Alors, ma base, c'était que j'adorais l'idée d'allaiter. Dans ma famille, mes sœurs, ma mère, voilà, tout le monde avait allaité. J'ai 2 sœurs hein, qui avaient déjà eu 5 enfants avant moi.
Ok.
Et ça me paraissait naturel, dans le sens pas, enfin, qui se instinctif quoi, voilà. Ça m'inquiétait pas du tout parce que je me souviens que la sage-femme en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie en couple. Et elle m'avait dit, ah, ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. Et moi, j'avais dit, non, merci. Et je me souviens de sa tête, elle était choquée. Et elle m'a dit, mais non, mais je vous assure, ce serait bien que vous veniez. Moi, j'avais l'impression qu'elle me le proposait comme un petit plus. Et j'ai dit, non, non, vous inquiétez pas. Mais moi, pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum, c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Hein. Moi, en fait, tout ce qui me stressait, c'était l'accouchement, hein, comme beaucoup. Et puis, mais l'après, ça ne m'inquiétait pas du tout. Mais d'ailleurs, je connaissais même pas le mot postpartum. Hein. Pour moi, l'après, c'était juste mon bébé et youplalou, quoi.
Et alors youplalou, t'as accouché, ça s'est bien passé?
Youplalou, j'ai accouché, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Vraiment pas, enfin, la préparation a servi. Hein. Là, pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement. Ouais. Et voilà, ça n'a pas été complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contractions, super, donc plein d'ocytocine. Okay. Injecté et une poussée qui a duré 3/4 d'heure. Enfin, ça c'était vraiment l'horreur. Oui, mais je veux dire, voilà, non, c'était pas.
Ça s'est bien passé, quoi.
Ça c'est. C'est ça. Je sais plus en fait avec toutes les histoires. Est-ce que dans le degré, tu vois où je me situe, quoi. Mais ouais, j'ai pas fait d'hémorragie, je suis pas tombée dans les vapes. Mais par voilà. contre, oui, une bonne
déchirure.
T'es pas
morte, mais c'était pas super fluide.
Voilà, c'est ça. Et non, non, il était ouais, compliqué à sortir et il faisait 4 kilos. Voilà, un petit bébé dans ouais. les normes.
Une jolie bête.
Voilà, pour un premier. Et donc, il s'est mis au sein tout de suite et ben, j'ai adoré ce moment. Il a tout de suite tété 1/4 d'heure chaque sein au taquet. Tout le monde était impressionné et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un postpartum immédiat. Vraiment très beau. J'étais complètement émerveillée de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial.
Super.
Et par contre, ça a été. Donc, j'ai accouché en fin d'après-midi, 4h30. Et mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h. Mmh. Ça faisait qu'1 heure que j'étais en chambre. Et là, ouais, ça a été le début de la douche froide parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique. En fait, il devait avoir des douleurs sans doute parce qu'il a été coincé quand même pendant assez longtemps pour la sortie. Et je ne me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit. Je ne savais pas trop quand le faire ou quoi. Enfin, franchement, j'étais complètement perdue.
T'appelais les sages-femmes pour le mettre au sein ou t'arrivais à le faire seule?
Non, non, j'ai appelé une fois. J'ai senti qu'elles étaient occupées et que elles me disaient, bon, bah, parce qu'en fait, j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient. Elles m'ont dit, c'est normal. Mm-hmm. Et puis, elles m'ont changé les draps et puis j'ai compris que j'allais pas les appeler à chaque fois pour changer ces petits draps. Et du coup, j'ai pas osé, voilà, j'ai un peu été, je pense que je suis rentrée dans une phase de sidération un peu. Ouais. Et le lendemain, mon conjoint pouvait venir qu'aux horaires de visite, donc que l'après-midi. Et ma mère arrivait, voilà, d'Alsace, pour venir me voir. Et du coup, il est arrivé avec elle tout de suite. Et ce qui fait que j'ai pas débriefé de ce que j'y vais. Et je venais de découvrir, voilà, vraiment mon corps postpartum. Enfin, vraiment, j'étais un peu en choc. Mais j'ai fait bonne figure en fait devant eux et devant le personnel parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais dans ma tête, je me suis dit là, l'allaitement, les tranchées que je ressens, c'est le truc de trop quoi. Enfin, je me disais là, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher et j'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que bah, c'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le truc de trop, mais j'y tenais, en fait. Je trouvais ça... Je me suis même pas posé la question de pas allaiter, en fait.
Parce que là, quand tu parles des tranchées, en fait, t'avais mal au ventre, c'est ça,
ouais,
à chaque fois que tu allaitais?
Ah ouais, ouais, j'ai eu vraiment très mal. Et enfin, je me souviens que ça faisait très mal. Après, c'était pas insupportable, mais c'est surtout que ça, c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement. Et je me disais, ah mais non, mais là, c'est fini. Moi, j'ai accouché, là, donc maintenant, c'est fini. Faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai très mal vécu tous les soins postpartum, le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où est-ce qu'il en était, aussi quand à un moment il vérifie le col. Tout ça, c'était vraiment pour moi très très difficile parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Ouais. Et je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille que mon corps, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement invasif aussi. C'était encore quelque chose. Je voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais tout donné. Et pour moi, là, je devais continuer de donner et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que maintenant, avec du recul, et bien sûr, même sur le moment, je me disais, mais tu t'attendais à quoi? Mais bien sûr, c'est ça, être mère. Et donc, voilà, je suis rentrée dans une spirale de sacrifice, quoi, où je me suis dit, ok, d'accord, je vais tout donner, mais et m'oublier, quoi.
Ouais, donc ça a commencé à J1, en fait. Tu t'es là, c'est le truc de trop. Donc, les tranchées, on rappelle que c'est des douleurs de... On appelle des tranchées quand l'utérus se contracte suite à l'accouchement pour retrouver sa taille initiale. Et c'est sous les effets de l'ocytocine. Et au moment de l'allaitement, il y a une décharge d'ocytocine qui fait que voilà, c'est un peu majoré pendant les tétés. Donc, toi, tu ressentais ça plus. Et là, tu t'es dit, ah non, mais alors ça me rappelle l'accouchement.
Ah ouais.
Moi, je m'étais préparée à l'accouchement, mais pas à la suite. Et donc là, il faut que je supporte cette douleur et en plus que je continue de donner de mon corps, en fait. C'est ça ?
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, mon corps, j'avais besoin qu'on le laisse tranquille. Et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Donc voilà, c'est le paradoxe. Hein, parce que c'est plein de paradoxes, la maternité.
Ouais.
Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de « c'est trop, mais je veux le faire quand même ». Et je n'arrivais pas à évaluer où la balance, elle penchait, de quel côté, quoi. Est-ce que c'est vraiment trop ou est-ce que... est-ce que c'est vraiment trop? Il faut que je sacrifie ce désir d'allaiter parce que, en fait, moralement, et c'est ce qui s'est passé, moralement, ça m'a trop atteint. Ou alors, je le fais et en même temps, personne ne saura le dire. Je pense quand même que, enfin, voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de me dire que j'ai réussi à le faire parce que j'ai aimé le faire quand même. Ah, c'est trop paradoxal tout ce que je dis.
Ouais, mais la maternité est ambivalente et l'allaitement aussi, donc ça fait double ambivalence là.
Ouais, c'est exactement ça.
Et à aucun moment, donc tu t'es dit, je vais en parler. Donc ta maman était là et ton conjoint, c'est
oui.
ça ?
Ouais.
Pourquoi tu pouvais pas leur en parler ? C'est un truc que toi tu t'es imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait été mal reçu ?
Ça. C'est quelque chose que aujourd'hui, 2 ans et demi après la naissance, j'ai déconstruit. Mais à l'époque, je fonctionnais vraiment sur le fait de prendre sur moi, parce que si je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner, ou enfin c'était vraiment un fonctionnement où de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi.
D'accord, tu fonctionnes déjà comme ça au démarrage.
Voilà, de base, c'est comme ça. Et donc, déjà dans mon couple, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint, il ne voyait jamais venir le moment où j'en pouvais vraiment plus, quoi. Mm-hmm. Et la parentalité, ça n'a pas loupé. Ça m'a confrontée encore plus à ce fonctionnement où aujourd'hui, j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire, ah ok, là, non, si je continue sur cette voie-là, je vais craquer à un moment. Mais avant, je ne savais pas l'anticiper. Je me sentais peut-être un peu trop puissante quand même, quoi.
Donc du coup, comment ça s'est passé ensuite ? Là, on est à J1.
Voilà, j'ai eu la montée de lait très rapidement.
Ouais.
Ça, on m'avait préparé. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc ça, quand même, je m'étais préparée à ça.
Et elle a été importante, cette montée de lait ?
Oui, importante. Après, je dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais les seins. Ce qui m'a frappée, c'est qu'ils étaient même plus ronds. Ça devenait carré, quoi. Enfin, c'est vraiment spécial. Et je dis, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était 2 marteaux et puis durs comme un marteau, quoi. Donc, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est plus des seins, quoi. Et puis, ce qui est drôle pour moi, qui est vraiment une petite poitrine à la base. Je suis entre le A et le B, c'est que voilà, là je me suis dit, mais là mes seins ils trouvent tous les petits recoins où ils peuvent, enfin voilà, où le lait peut se remplir, c'est incroyable. Ça monte. En fait, t'as plus un soutien-gorge, c'est-à-dire que les seins, ils
Ah non.
sont remontés jusqu'à la gorge, quoi.
Tout à fait.
C'est assez impressionnant et je trouve que c'est une expérience, enfin, que moi j'ai trouvée plutôt rigolote, quoi.
Ok, quand ça fait pas trop mal, en effet, ça peut être rigolo de se
Ouais,
retrouver
voilà,
comme ça, subitement
ça
avec des
faisait
seins.
mal, mais pas. En tout cas, j'ai plus trouvé ça marrant, ouais.
Ok. Donc la montée de lait arrive, du coup j'imagine que ce bébé qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, se met à
Non, il tétait
téter,
très bien, ouais.
il tète du lait rapidement, donc il
C'est
prend du
ça.
poids. Donc toi tu rentres pas dans
Ah
ces
ouais.
galères de il prend pas assez de poids,
Non.
donnez-lui des compléments ou j'ai des
Pas
crevasses, enfin
du
les
tout.
trucs vraiment casse-pieds des démarrages et qui mettent très vite à mal l'allaitement.
C'est
Pour toi
ça.
ça a roulé, donc ça te donnait encore moins de raisons de...
Mais c'est ça. Et ma mère, qui, elle, n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés, elle disait tout le temps ça. Elle me disait, mais quelle chance tu as là. T'es pas de me dire quelle chance tu as. Il prend super bien le sein, t'as plein de lait. Donc bon, bah voilà, j'allais. C'est vrai que je me disais, bah oui, j'ai de la chance. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un peu royal comme ça, mais rapidement j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup, beaucoup de lait.
Ouais. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, bon, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça. Tu ranges l'idée que cet allaitement c'est en trop, tu mets ça dans un coin bien caché de ta tête et puis t'essayes d'avancer comme ça.
Je serre les dents, ouais. Je serre les dents et je me dis, ça va être ça. Et je vais m'y faire, quoi. Alors, j'avais eu deux conseils qui étaient que j'avais reçus. Il y en avait un, c'était de mettre la lanoline sur les tétons. Donc j'avais ça dès la maternité et j'imagine que ça m'a aidé quand même à pas avoir de crevasses ou quoi. J'en ai tout le temps mis tout au long des 4 mois de mon allaitement. Par contre, j'ai trouvé ça tellement pas pratique. Tellement ça colle.
Ouais, c'est vrai que ça colle la lanoline, on en fout partout.
Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts parce que vu qu'on est un peu. En général, on a encore le bébé sur nous après la tétée où je mettais ça. Et du coup, peut-être j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement.
Alors que t'avais pas mal.
Non, voilà, c'était de la prévention. Ouais, bah, j'avais
Prévention.
tellement peur. Ouais, j'avais vraiment peur d'avoir mal. Et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement.
Ouais.
Vraiment, ils sont extrêmement éclaircis. J'ai plutôt les tétons foncés, plutôt marron à la base. Et ça m'a fait un peu bizarre. Et ils sont devenus rosés. Et finalement, en fait, non, la couleur initiale revient. Ça doit être une histoire de cicatrisation après, je sais pas. Mais ça, c'était aussi c'est des petits détails en fait. Mais sur le moment, c'est ton corps qui change. Et c'est quand même assez surprenant et déstabilisant, je trouve.
Ouais, tout à fait, ça
Voilà.
peut l'être. Et puis là, changement de forme aussi. Alors quand c'est dans ce sens-là et que à la base on n'avait pas de
Oui,
poitrine et
voilà,
d'un
c'est
coup on
ça.
en a, il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je me suis
Ah
dit, bon
ouais.
là, c'est quand même le moment ou jamais d'en profiter.
Ouais, je
Avoir
trouve
des
que
boobs, c'est pas toute la vie.
ça m'a aidé à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que. Je trouve que du coup les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé, mais on a encore voilà les kilos en trop et tout ça, je trouvais que ça équilibrait la silhouette quand même d'une certaine manière. Alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là avec le ventre qui sort à moitié et tout mou et enfin je veux
Ouais.
dire les cuisses avec les kilos en trop, je me suis dit au final ça sauve la silhouette là.
Cette histoire de marteau me sauve la
Ouais,
silhouette.
c'est ça, finalement.
Bon, alors du coup, tu es entré dans une phase qu'on appelle d'hyperlactation. Raconte.
Ouais. Alors, moi, donc je n'y connaissais rien en allaitement vu que je me t'ai dit que ça allait tout rouler. Mais j'avais du lait qui coulait en permanence, donc je dormais avec plusieurs serviettes de bain sous moi.
Ouais.
C'est quelque chose que j'ai mis en place. Voilà, comme ça, en système D, parce que je voyais bien que ben, le drap, le matelas, voilà, tout était plein de lait. Et ça permettait aussi, du coup, au fur et à mesure de la nuit, d'enlever une serviette qui était mouillée pour dormir un peu sur du sec.
Ouais.
Et je m'étais acheté des coussinets d'allaitement. Mais alors déjà, je crois que c'est quoi? C'est 6 € ou 8 € la boîte de 30?
Ouais, et toi, la boîte, c'était une journée.
Bah, c'est ça. Mais même, je comprenais même pas l'utilité. Je me suis dit, mais ils sont nuls. Enfin, c'est-à-dire que je les pose et puis ils sont remplis. Enfin, c'est... Alors, j'ai laissé se remplir bien. C'était vraiment, ils étaient mais pleins à essorer, quoi. C'était vraiment, je pouvais, enfin, je veux dire, je les tenais. C'était super lourd, quoi. C'était vraiment, ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et mais je connaissais pas le concept d'hyperlactation. Je me suis dit, bon, bah voilà. Après, mon fils, il tétait beaucoup. Et c'était la canicule l'été 2018. Hein.
Ouais.
Et donc, comme il faisait chaud et j'avais peur, on parlait de déshydratation. Donc, je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés. Mais il tétait déjà toutes les heures et demie au max. Et donc, je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Donc, voilà, moi, n'ayant pas de connaissances non plus,
T'as peut-être un peu surstimulé les seins quand même.
C'est ça, voilà.
Bon, enfin, en tout cas, ce loulou s'est pas déshydraté et il a
Non,
pris du
voilà,
poids comme il
il
fallait.
a pris énormément de poids, du coup, enfin, c'était dingue. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas s'il faisait pas 8 kilos à 3 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment. Ouais, non, là, c'était vraiment. Il était bien nourri, mais c'est vrai que quand, bon, c'est un premier, on n'a aucun repère. Et ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application pour noter les tétés. Donc, sein gauche, sein droit, le temps de tétée, tout ça, parce que mon truc, c'était qu'il trouve un rythme. D'identifier, parce qu'en fait, cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, après, elle te fait un graphique avec ta journée, ou les 24
Ah ouais.
heures, pour que tu vois des tendances. Bon,
D'accord.
j'ai fait ça pendant 4 mois, il n'y a jamais eu de tendance.
D'accord.
Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris depuis, je me dis, mais oh, je me serais tellement ôté un poids
Ouais.
d'allaiter un peu sans réfléchir et de dire, bah voilà, là, il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là à calculer chaque temps de tétée.
Oui, surtout que toi, tu pouvais le faire dans un cas comme ça. Bon, ben voilà, il va à la
Bah
source, on
oui,
sait,
mais c'est
il y
ça.
en a trop de toute façon, il y en a tout le
Bah
temps.
oui. Et alors, je me stressais parce que je lisais que le lait de début de tétée, c'est un lait sucré qui se digère, enfin qui peut faire un peu mal au ventre ou je ne sais plus trop quoi. Et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin quand le bébé il a entre guillemets tété le sein quoi en
Ouais.
entier. Mais moi en fait, il avait à peine, enfin mon sein il avait à peine commencé à dégonfler quoi. Enfin, je veux dire, finir le sein, ça n'existait pas à part effectivement les pics de croissance. Là, j'ai connu et effectivement, là, il pouvait tout vider. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. C'est que je me suis dit, mais il a toujours que du lait de début. Puis il avait pas mal de maux de ventre. Il avait voilà beaucoup de soucis de digestion, quoi.
Ouais, donc tu te disais c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc l'application, elle aurait pu te servir à ça, en fait, c'est ça?
Ouais, ben c'est ce que j'espérais de. Ouais, en gros, je navigue à vue. Hein.
À quel point c'était embêtant cette hyperlactation? Parce que le grand problème de l'hyperlactation, et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est, aux yeux du grand public, pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre très
Non.
facilement, mais t'as de la chance, t'as du lait, il
Ah
mange
oui.
assez, en plus, regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait, et t'as pas mal. Et alors, du coup, pour toi, comment t'as vécu cette hyperlactation? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire? Est-ce que c'était un handicap?
Ben je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai. Comme je n'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début, ça faisait partie des choses que voilà, je testais d'en parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout. De voir qu'en face, je veux dire, si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, hein, elle ne peut pas comprendre en fait. C'est pas un problème, effectivement. C'est pas vu comme un problème l'hyperlactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment, vraiment embêtant. C'est-à-dire que bah voilà quand mon fils il tétait un sein, l'autre c'était le G quoi, le G en avant, et ça veut dire que le lait il coule tout le temps, ça gêne l'intimité déjà dans le couple parce que bah voilà moi pour l'intimité avoir du lait qui coulait c'était juste pas possible, vraiment c'était gênant. Et pour sortir dehors, J'avais toujours du coup les t-shirts mouillés. Alors moi, je mettais des gants de toilette hein, au moment. J'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs. Hein. Après, parce que j'ai mis des coquilles de recueil, mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie.
Oui, tout à fait. C'est pas forcément une super idée, ouais.
C'est ça. Donc, j'étais vraiment un peu. Je me suis sentie très seule, quoi, avec ce problème qui est effectivement pas reconnu. Et à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Aussi, j'avais besoin de passer le relais parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. J'avais besoin de passer le relais. On avait pris du coup, mon mari, il a cherché un tire-lait à la pharmacie. Mais j'ai dit, mais le tire-lait, ça stimule. Et j'ai dit, déjà, avec tout ce qui tète, si en plus je fais le tire-lait, bah. Vraiment, ça m'a angoissée, donc on l'a rendu. Et voilà. Et en fait, là, je me suis dit, je vais arrêter. Je me suis dit,
Donc là, on est à combien de temps d'allaitement?
2 mois, je pense.
D'accord, donc 2 mois de d'être trempé tout le temps, toutes les nuits,
Ouais,
tu peux pas
c'est
vraiment
ça.
sortir et si tu sors, il faut
Ouais.
avoir des gants de toilette dans ton
C'est
soutif.
ça. Et comme c'est l'été, bah, on a des petits t-shirts. Alors, c'est
Ouais.
voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. C'est heureusement il y a le porte-bébé quoi, ça
Qui
camoufle un peu.
lui-même appuie sur le sein et le vide.
Ouais, c'est ça. Et alors juste pour dire aussi hein, quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. On a un peu
Ah,
cumulé quand même. Hein.
d'accord.
Et c'est une sage-femme que je suis allée voir pour une pesée et elle m'a dit mais va pas du tout bien votre fils. J'ai cru, j'allais pleurer parce que je me suis dit ah enfin quelqu'un voit quelque chose. Et elle a dit, mais il a le ventre plein de gaz, il a mal. Et elle était super sympa. Elle m'a dit, mais un bébé qui va mal, c'est une maman aussi qui doit aller mal. Comment vous allez? Enfin, franchement, elle était adorable.
Ouais.
Et là, elle m'a dit, bon, vous allez revoir toute votre alimentation. Et j'ai dit, mais moi, à la maternité, on m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant. Ça n'avait aucune incidence sur le lait. Et elle m'a dit, ah ben non. Enfin, et puis elle a dit, visiblement, là, il y a un souci. Et en 24 heures où j'ai arrêté le lait de vache, il a changé. Je l'ai vu comme je
D'accord.
l'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu les sourcils froncés. Et il a enfin dormi 3 heures de suite.
Ah, pauvre chat,
Voilà.
donc il était pas bien en fait.
Ah non, c'est. Mais c'est vrai, il se réveillait en hurlant. Hein. Et ça, il l'a fait de toute façon jusqu'à au moins c'est 1 an et demi. C'est.
D'accord.
Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, le réveil en panique. Et il
Ouais.
avait des gaz qui le faisaient hurler. Et j'en avais parlé à la pédiatre qui n'était pas très open, qui disait oui, c'est un bébé, sa digestion se met en place. Et ouais, à la pédiatre, très rapidement, à la consultation des 10 jours, j'avais dit il pleure, il dort pas. Elle m'a dit bah, c'est un bébé.
C'est un bébé, bon courage.
Exactement. Revenez dans 1 mois.
Ou dans 3 mois.
C'est ça.
Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mon allaitement est problématique et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans, ou tu connaissais pas
Alors,
ces métiers autour de l'allaitement?
par Internet ou Instagram, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation. Et donc j'avais un peu regardé qui pouvait se déplacer à domicile parce que si, bah, pareil, quand on a un bébé comme ça, qu'on a ce niveau de fatigue, on s'imagine pas en fait se déplacer en cabinet. Puis il faisait 35 degrés dehors, quoi. C'était vraiment compliqué. Et on n'a pas de voiture en région parisienne. Et donc là, j'avais vu que bon, les tarifs c'était 100 € la consultation. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on n'était pas très large financièrement. Et donc, je me suis dit, bon, on va. Ouais, ça m'a découragée, franchement. J'ai pas osé parce que je me suis dit, et si elle comprenait pas? J'étais vraiment dans un. Je me suis enfermée dans personne pourra m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. J'ai pas vu, en fait, un peu de lueur de compréhension quelque part.
Est-ce qu'il y
Et en
avait
même
un peu
temps, ouais.
de je vais y arriver toute seule?
Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter, quoi.
Ouais, donc tu
Donc,
t'es dit dans le doute, voilà, si personne comprend, alors autant que je fasse rien.
Ouais, on est allé chez l'ostéopathe quand même, mais je pense que bon, déjà c'était un des pires jours de canicule. Déjà avec le trajet en bus, je pense que mon fils il était au bout. Et donc la séance était compliquée parce que déjà il était tellement tendu de partout. En fait, mon fils, bah, on ne pouvait pas l'allonger, on pouvait pas on faisait rien avec lui. Je veux dire, même tourner les jambes comme ça il savait pas faire, hein, on pouvait rien faire. Donc je pense que cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis moi, ça m'avait tellement épuisée de faire juste ce rendez-vous qu'après, je me suis dit, mais moi, je bouge plus de chez moi, en fait.
Ouais, je mode survie, je reste à la maison et on m'a
Exactement.
dit que dans 3 mois ça irait mieux, donc je serre les
Voilà.
dents.
Mais dans ces moments-là, 3 mois, c'est. On
C'est le
dirait que
bout
c'est
du
comme
monde.
2 ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est compliqué.
Et ouais. Et donc au bout de 2 mois, tu t'es dit ah oui, donc c'est le moment où tu décides que t'aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire-lait, c'est t'envisages pas cette option. En plus, voilà, t'as pas de
Ouais.
personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis, je vais surstimuler encore mes seins, ça va être voilà,
C'est ça.
ça va pas être possible. Donc du tout, puis
Exactement.
tu te dis, je vais arrêter.
Exactement. En fait, je me dis, mais je me suis dit, je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je réduise le nombre de tétés. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer, mais qui était d'insérer un biberon par jour. Enfin, un biberon, puis faire comme ça peut-être une semaine. Enfin, je me suis dit, mais j'ai le temps, je reprends le travail à 4 mois. J'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet qui était censé m'alléger petit à petit, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil.
Et ben alors du coup donc tu voulais arrêter, tu avais 2 mois devant toi pour
Oui, voilà,
préparer
c'est
ce
ça.
projet.
Donc, je m'attendais pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles. Je m'attendais à ce que, voilà, il faut acheter plein de marques de biberons pour tous les tester. Il y aura l'heureux élu. Il faut pas que ce soit la maman qui donne le biberon parce qu'il voudra le sein, donc il faut essayer avec le papa. Voilà, donc j'ai commencé par tester ces petites théories-là. Donc j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs tessines différentes. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, avec cette technique-là, on peut le faire vraiment que le week-end parce que comme il travaille la semaine. Enfin, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il faut pas le faire à la tétée du matin, à la tétée du soir, parce que c'est là où il est vraiment, c'est pas la première habitude à changer, on va dire. Ça donne deux chances d'essayer par semaine, en fait.
Oui, ce qui fait pas
Et donc,
beaucoup.
c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc déjà, je me suis dit, on va pas beaucoup compter sur cette possibilité-là. Et donc mon fils, en fait, même donc soit avec moi ou avec mon mari, il voyait le biberon arriver et en fait il s'en fichait quoi. C'est vraiment aucune succion. Je mettais mon lait dedans, je mettais du lait maternisé. Ça ne changeait rien. Il était indifférent.
Ouais, Madeleine m'a envoyé une vidéo avant qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent lors d'un essai biberon. Et c'est vrai que le mot, c'est ça, c'est l'indifférence totale
C'est ça.
face à cet objet à nouveau dans son quotidien. Il tient sa tétine vaguement entre ses gencives et il regarde les
Voilà.
mouches passer, quoi.
Ouais, exactement. Donc moi, je faisais tout pour bah, que ce soit en douceur. Et je me disais, on va essayer tous les jours. Donc j'ai essayé tous les jours pendant 2 mois. Et je le promenais même. Donc je mettais des bruits qu'il aimait. Je chantais une chanson. Et en fait, je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant que moi, j'essayais de lui donner le biberon. En fait, ça le berçait tellement. J'étais tellement à fond. Donc vraiment le gag quoi, c'est pas vrai. Et rapidement je me suis dit mais qui aide au sevrage en fait? Et là j'ai contacté quelqu'un quand même, je crois maintenant j'ai un souvenir.
Parce que tu
Ou
t'es dit,
peut-être.
là, ça va pas avancer dans le bon sens. T'as fait ça pendant
Ben.
combien de temps sans résultat?
des semaines, hein, je pense quand même, au moins 3 semaines, je pense.
Et pendant ce temps-là, tes seins, ils coulent toujours
en permanence ? Ah ouais, oui, toujours. Ah bah ouais. Ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé 3 mois, maintenant, j'ai un souvenir qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, j'ai jamais manqué de lait. Mais passé 3 mois, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense, il devait quand même moins couler.
Ça s'est un peu passé.
Et voilà, c'est ça. Je pense quand même que les tétés se sont un peu espacés et ça a dû aider. Mais j'ai aussi des photos, je pourrais t'envoyer aussi, on pourra peut-être les publier, je sais pas, mais je pressais mon sein dans un verre. Et j'avais mon fils dans l'autre main et mon mari me prenait en photo, il me dit « mais c'est pas possible, mec. Tu fais des trucs, enfin, c'est des situations improbables.
Ah oui, et que seul l'allaitement et l'hyperlactation peuvent t'apporter. Presser ton sein au-dessus d'un verre.
Ah ouais, genre un peu partout, dès que tu dis, allez hop là, faut que je vide un peu, tu sors le sein, tu le presses, tu vides, voilà. C'est normal.
Et donc tu t'es dit, il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse en sevrage. Qui t'a appelé ?
Eh bien, je ne sais plus. Et je ne sais pas si j'avais contacté un compte Instagram d'une consultante, peut-être. Je ne sais plus. Je pense quand même, en fait, finalement, maintenant, je me rappelle avoir peut-être contacté une consultante et qui m'a dit « Mais moi, je ne fais pas le sevrage. »
Ah mince.
Ouais. Et là, je me suis dit « Ah !»
Oups.
Ouais. En fait, je me suis vraiment sentie très seule parce que, du coup, j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur internet sur le sevrage et j'avais tout essayé, franchement il n'y avait rien qui fonctionnait et j'ai une copine qui m'a dit c'est pas possible, je vais venir je vais lui donner le biberon et elle vient.
Ah, okay.
Ouais, c'est ça, elle est venue, hop, elle m'a ramené un biberon que ses enfants avaient pris, ses bébés avaient pris après l'allaitement. Mm-hmm. Elle a dit, tu verras, ceux-là, ils sont super, je te l'offre. Et elle dit, allez, on lui donne. Elle le prend, elle a vu que ça ne marchait pas. Il prenait, enfin, on pouvait lui mettre dans la bouche, mais il ne tétait pas. Et elle a dit, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, bon, ça m'a fait du bien que quelqu'un d'autre qui était expérimenté et plein de...
Parce que tu doutais d'assurance. De toi à ce moment-là, tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui ne voulait pas prendre ce bib ?
Bah ouais, je me sentais en échec, mais je me sentais en échec surtout de toute façon parce que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement ou bah moi je le vivais pas entièrement bien. Enfin, j'avais l'impression que rien, sans qu'il y ait quelque chose de, on va dire, très grave, il n'y avait rien qui fonctionnait très bien, quoi. Et du coup, ouais, je me sentais vraiment en échec. De ne pas avoir eu cet allaitement entièrement serein, même si franchement, ça a été, y a eu des beaux moments. Et je pense que j'avais une satisfaction je pense que ma satisfaction principale dans mon allaitement, c'était de le nourrir de mon corps, quoi.
Tu le faisais parce que c'était bon pour lui.
Ouais, et vraiment de me dire, mais il a besoin de rien d'autre que moi, c'est la continuité de la grossesse. C'est franchement ça me nourrissait dans l'idée, quoi. Je trouvais ça vraiment beau et je faisais quand même du coup attention à ce que je mangeais, ou en tout cas si je devais prendre, j'ai jamais pris aucun médicament antidouleur, même pour les tranchées ou quoi, parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Je trouvais ça vraiment précieux,
dans les règles de l'art, quoi. Tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, je me suis mis beaucoup de pression quand même.
Ouais, on l'entend.
Ouais, c'est ça.
Et ton chéri, il en disait quoi de tout ça ?
Alors lui, il avait entendu la phrase « Chaque jour de tenue, c'est un jour de gagné ». Et il trouvait aussi ça bien que j'allaite.
Ouais.
Et il dit « Mais je fais tout ce que je... Enfin, dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir et... tu vas y arriver. » Et donc, lui, c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais. Déjà parce que moi, c'était dur de trouver des mots. Il ne me voyait pas bien, mais c'est vrai que même moi, je ne savais pas expliquer complètement. Donc, il m'écoutait beaucoup. Mais concrètement, bah voilà, donc il faisait à manger, il faisait tout ce qu'il pouvait dans l'appart, faire les courses, tout ça, pour que moi, et pour me libérer du temps avec notre fils. Mais avec du recul, bah, c'est vrai que moi, je me disais, mais ce que j'aurais besoin, c'est plutôt que moi, je rêvais de passer le balai, quoi, par exemple.
Ouais.
Je rêvais de faire autre chose, quoi.
Ouais, donc il faisait tout ce qu'un papa soutenant pouvait faire pour t'aider, mais à toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir
c'est ça. Un peu j'étais jalouse quoi. De lui. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais, mais quelle chance, il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Ouais, l'allaitement, pour moi, c'était une perte de liberté trop importante que je pense, au final, pour un autre enfant, je retenterais.
Mmh.
Et je pense que je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté, mais parce que tout ne sera pas nouveau. Je pense que là, je veux dire, passer d'un couple sans enfant à devenir parent, c'est pas juste l'allaitement qui est une perte de liberté, c'est globalement, on fait plus ce qu'on veut quand on veut. Et du coup, l'allaitement, c'était juste un truc en plus. Alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parent, et que je sais que c'est juste temporaire et que c'est une parenthèse à vivre, je l'accepterais beaucoup mieux, mais je pense que pour un premier, c'était trop difficile, trop demandeur, quoi.
Trop de changements.
Ouais,
et le fait qu'il ait cette devise de un jour de passer, un jour de gagner, là, c'est ça ? Tu m'as dit ?
Ouais, ouais.
Est-ce que c'était quelque chose qui te mettait la pression ?
Ouais, ouais, ouais. Bah, à ça, on peut pas répondre. Bah, je veux arrêter. Enfin. Du coup, on tient au jour le jour, quoi. Je voyais pas d'issue avec avec ce mantra, quoi.
Et donc toujours pas. À ce moment-là, tu ne te dis pas, il faut que j'arrête.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je continue d'essayer et du coup je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé le veut pas, et je me disais mais j'ai quand même l'impression que je le suis, et je me culpabilisais beaucoup, quoi. Je me disais qu'est-ce que je fais mal. Ouais, j'étais vraiment
Tu t'en voulais d'arrêter? Enfin d'essayer d'arrêter?
Je crois pas, non. Non, non. Enfin, j'essayais de me faire ma petite psychanalyse intérieurement. Je me disais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas? et avec du recul, non, je pense. Au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je ne me le disais. Je pense que maintenant, avec du recul, je me dirais, non, là, j'étais pas bien. J'aurais vraiment dû me faire aider, vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à sevrer et passer à autre chose, parce que une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis sentie vraiment mieux, hein. Ça m'avait pesé, en fait, mais je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé, c'est-à-dire que d'essayer tous les jours pendant 2 mois, autant faire ça en une semaine, quoi. Enfin,
ouais, complètement.
Plutôt que de s'infliger ça, parce que du coup c'était me sentir en échec chaque jour, de me dire bah, j'arrive pas à le sevrer. Et aussi, non, je culpabilisais, ouais. Je culpabilisais quand même, parce que je me disais, c'est que lui, il y tient. En fait, je voyais qu'il aimait vraiment téter au sein. Et même après, quand il a pris le biberon, enfin voilà, moi, je l'appelle un serial téteur, quoi. C'est vraiment, il a 2 ans, enfin, à 2 ans, il buvait encore 3 biberons par jour. Et on a vraiment dû faire un sevrage du 3e biberon, quoi. Le biberon de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever. Et là, il a 2 ans et demi passé, il a toujours 2 biberons par jour et il y tient beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc tu avais l'impression de lui enlever quelque chose.
Ouais, quand même, voilà, c'est ça, ouais.
Et alors, comment tu as réussi à le sevrer, ce chouchou ? 2 mois d'essai de sevrage. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a débloqué la situation ? Est-ce que c'est ta copine qui a ramené un autre biberon ?
Alors, son biberon, effectivement, c'est celui qui a fonctionné.
Ah,
mais
quand même.
Au final, hein, donc effectivement, c'est le Tommy Tipeee. C'est pas pour faire de la pub, mais je le trouve super bien. Parce que je trouve effectivement que mon fils, donc il a toujours ce biberon, je trouvais vraiment que sa bouche était positionnée de la même manière que sur mon sein. J'ai vraiment trouvé que c'est la même, le même positionnement. Et il y a eu au bout de un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc 2 semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais. Mon mari allait aller chez des amis et garder notre fils. Et pour moi, c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où, voilà, c'était vraiment difficile si vraiment il mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée. Et en fait, mon fils, enfin notre fils, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il m'a attendu toute la journée.
Ils sont terribles quand ils font ça.
Ah mais vraiment, aujourd'hui, je trouve que voilà, quand il approche de 3 ans, je vois un peu plus son caractère. Et en fait, mon fils, c'est le roi du « je fais mine de rien ». Je fais mine que « ah, tu me dis un truc là qui devrait me faire réagir ». Oh, je tourne la tête, genre j'ai rien entendu. Donc franchement…
Il a fait pareil avec l'allaitement.
Il a fait ça. Il a fait « j'essaye de me faire prendre un biberon, je fais genre je comprends pas ». Et ça
qui
passe.
Me parle.
donc ouais. Donc il a passé la journée comme ça et quand il m'a retrouvé le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglot à la fois. C'était genre je suis trop contente que t'es revenue. Je suis contente mais je suis triste.
La bonne décharge en rentrant.
C'est ça. Donc là il a tété toute la nuit.
Ouais, mais là tu t'es dit mais comment je vais y arriver quoi, même ah, une mais... journée entière il prend pas son bib.
C'est ça. Et les gens à qui j'en parlais, mais unanimement, me disaient ça va venir, il va finir par le prendre le biberon, il aura pas le choix. Mais je veux bien, mais
ouais, mais dans les faits en fait lui il se laisse le choix là.
Ouais, et vraiment je trouve que on reconnaît pas assez. Ça peut être vraiment une détresse de pas réussir à sourire. Enfin, c'est une angoisse, quoi. Parce que,
ouais, bien sûr.
Je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé, un bébé de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc, on est quand même dans une situation compliquée où on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps, on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement, c'est ça a ça de très particulier, que c'est répondre aux besoins d'un bébé par notre propre corps, par notre... ça dépend entièrement de nous, alors que dans la vie en général, l'alimentation, ou quoi que ce soit pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Et voilà, enfin c'est l'illustration de la dépendance ultime, quoi.
Et c'était trop de pression.
Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à étirer un peu cet élastique de dépendance, ça m'a étouffée, quoi. Je supportais, je pense, encore moins. Ça me rendait vraiment triste. Et je pense que ça complique la relation, en plus, à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais... continuais dans mon mode je prends sur moi quoi. Et ce qui a marché c'est que j'ai vu un conseil qui disait de positionner déjà de prendre la tétine la plus petite. Moi je me disais mais comme il arrive sur ses 4 mois je peux déjà lui prendre une numéro 2, peut-être ça coule pas assez, faut que ça coule, etc. Et donc les conseils qui ont marché c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible. Parce qu'en fait, il ne faut pas que le lait coule tout seul, parce que du sein, ça ne coule pas tout seul, même si chez moi, c'était un peu particulier. Et parce qu'il a l'habitude de téter pour que le lait arrive. Donc, il faut qu'il retrouve ça. Et comme la succion, c'est d'appuyer la langue contre le palais, d'appuyer le téton contre son palais, c'est pareil avec le biberon, donc lui positionner contre les dents du haut et contre le palais. Donc, lui proposer en le mettant tout de suite haut, pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous comme il en a l'habitude. Et ce n'est pas dans les conseils que j'ai entendus, mais pour nous, ça a fonctionné. En fait, je le mettais au sein quand il avait faim. Je le faisais téter 1 minute pour qu'il étanche sa soif première. Je lui enlevais le sein. Je le gardais exactement dans la même position contre mon sein. Et je lui mettais le biberon là.
D'accord. Et ça, ça voilà. fonctionnait.
Et ça, ça fonctionnait. Et donc, pendant longtemps, il ne prenait le biberon que exactement dans la position contre mon sein d'allaitement.
Ok. Bon. Toujours pas très pratique en termes de dépendance, mais on a passé un cap.
Ça, c'est sûr qu'il n'a jamais eu d'habitude très pratique. Et ouais, donc après, on est prêt à tout, hein, franchement.
Et là, on est quand ? Parce que tu dis que tu as repris le travail à 4 mois ?
Ouais, je pense qu'il a pris le biberon un samedi et il commençait la crèche le jeudi, enfin un truc comme ça.
Ah ouais, donc in extremis, quoi.
Ah ouais.
Ok.
Et c'était au retour d'une balade et j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, sa petite notion du temps. Mm-hmm. Et je l'ai allaité sur une chaise d'abord. Genre, je me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, j'ai essayé de façon tout, hein, voilà, c'est ça qui a fonctionné. Après,
ça reste mystérieux. Qu'il fallait briser ses habitudes.
Voilà, il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là. Donc en faisant un mix en fait, et qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc pendant les 2 premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon, c'était que moi.
Pratique.
Ouais. Ah non, non.
Et quand
ouais,
il c'était... était à la crèche, il mangeait ?
Oui. Alors, peu. Ouais, ça a mis quand même du temps. Il buvait beaucoup moins qu'à la maison.
Et alors, du coup, comment t'as fait quand il a repris la crèche ? Il prenait des biberons la journée et il tétait la nuit au
c'est
sein.
Ça. Ouais.
T'as essayé de garder quelque chose d'un peu. Alors, tu donnais ton lait la journée ? Non, tu donnais du lait industriel ?
Voilà, c'est ça. J'avais vu que ça ne faisait aucune différence pour lui.
Ok.
Et
toi, ça t'évitait de tirer la journée. Tes seins, ils se sont mis au diapason facilement, toi qui débordais ?
Alors, ah oui, maintenant je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement, pourquoi j'ai pas gardé ça.
Ah.
c'est là, avec ta question, ça me revient. En fait, au travail, j'avais démonté de lait.
Aïe.
Et ouais. Avec les seins qui coulaient, et je me suis dit, je peux pas gérer ça. Je me suis dit, mais je peux pas... En fait, ça me déconcentrait tellement. Déjà, c'est difficile. Après un congé maternité, de se remettre dans le travail. Mais de sentir mes seins avec les montées de lait et de sentir que ça coulait, et d'avoir tellement peur. Et puis du coup, bah oui, je veux dire, ma chemise, elle se mouillait. Enfin, je me suis dit, mais ça va pas être gérable. Je vais jamais m'en sortir, en fait. Faut que mon bébé, il me lâche parce que là, il me suit même au travail. et moi, j'arrivais pas, quoi. Je pense vraiment que c'était vraiment lié à ce que... au fait que voilà, il y avait toute cette nouveauté, que je manquais vraiment de confiance en moi, j'avais besoin de retrouver mes repères de ma vie professionnelle. Mmh. Et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il buvait pas trop son biberon, un peu, hein, mais il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit, mais en fait, malheureusement, il va pas accepter le compromis, ce qui va toujours tout faire pour garder le sein au maximum.
Ouais.
Et en même temps, je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon. Vraiment, je voyais que c'était parce qu'il se disait, bah, s'il y a toujours le sein, moi je préfère. Hein. Et si moi, en plus de ça, bah, je lui dis ok, bon, bah, il se dit, bah, c'est cool comme ça, tout le monde est content.
Ouais, tout le monde est content.
Donc
c'était
à moi de mettre mes limites, en fait. Et je pense qu'avec la reprise du travail, je me suis dit, là, je ne peux pas encore plus prendre sur moi. Là, j'avais enfin, on va dire, atteint mes limites.
Ok. Et quand tu dis j'ai atteint mes limites, tout ça, toi, tu étais dans quel état d'esprit dans toute cette période ? Est-ce que tu allais bien quand même ou est-ce que c'était plutôt une période un peu sombre ?
Ouais, c'était difficile. C'était vraiment difficile parce que aussi on a déménagé à ces 3 mois. Donc, on était encore un peu dans les cartons. La reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et on a trouvé une crèche super. Pour moi, qui n'ai pas ma famille à côté, la crèche, ça a vraiment été un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels, à qui je peux poser des questions, qui aiment mon bébé, qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne sait pas évaluer ce que je vois en fait.
Mmh.
Et du coup, il y a eu cet aspect qui était très positif. Et à la fois, j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre Parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose, bon bah, ça fait un effet boomerang. Et donc, ouais, j'étais franchement pas bien. Avec du recul, je pense que j'ai fait une dépression. Mais sur le moment, comme j'en parlais à personne, j'ai juste, voilà, continué, quoi.
Et l'allaitement, il a joué quelle place dans tout ce mécanisme, dans la pression que tu t'es mise, etc. À quel point c'était l'allaitement ou à quel point c'était juste le changement de vie qui influait?
Ouais, mais ça, je pense que je le saurais jamais. C'est ça qui est terrible. Ça a joué dans le positif et dans le négatif, je pense. Parce que, bon, ben voilà, c'était le truc de trop physiquement pour moi. Je donnais au-delà de mes forces, j'ai donné au-delà de mes limites. Et à la fois, je suis super fière d'avoir allaité, super heureuse d'avoir vécu cette expérience, de pouvoir nourrir mon fils, d'avoir eu tous ces moments privilégiés ensemble. Et mon regret, c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur, je pense que si j'avais pas trop calculé les tétés, si je m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi, je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool.
Ok. Et le sevrage définitif, du coup, il est intervenu à quel moment? Très rapidement après la reprise du boulot? Tu t'es dit que t'allais pas pouvoir...
Une semaine après.
Ouais.
En fait, j'ai fait 2 jours de boulot avec des montées de lait et je me suis dit ça va pas être possible. Okay. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi et du coup le week-end on a réduit et en fait honnêtement ça s'est passé sans aucun problème. Il a jamais recherché le sein en fait. Et au bout d'une semaine, je sais pas si ça fait ça à d'autres, on se dit oh, est-ce qu'on réessaye? Et j'ai juste essayé de voir est-ce qu'il reprendrait et non, il a plus pris le sein.
Ok, donc finalement, voilà, après moult tentatives de donner le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur un gros 10 jours, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Ok, cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie perso, pro?
Ben, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, de savoir ce que ça fait. Je pense que j'étais très curieuse de la montée de lait, comment le corps il produit tout ça, comment le bébé il peut téter, le côté autorégulation, même si chez moi il y en avait trop, c'est quand même assez fascinant. Je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre ce que d'autres peuvent vivre. Ça me permet de connecter avec les autres mamans et notamment le fait que voilà que j'ai rencontré plusieurs problématiques, voilà, ça m'aide à imaginer ce que peuvent vivre d'autres et ça voilà, je m'en sens vraiment enrichie et c'est des moments effectivement avec mon fils que rien peut remplacer, quoi.
Ok, alors si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute, qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi?
Je lui dirais 2 choses. Déjà, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix? C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter si on le souhaite, en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire à un moment, je veux arrêter. Mmh. C'est pas un discours qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment quand on choisit vraiment avec liberté, quand on se donne la liberté d'arrêter aussi. C'est-à-dire que si on se donne pas la liberté d'arrêter, c'est plus vraiment un choix. C'est plus vraiment... Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, c'est clair.
Mais moi, comme je me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base, enfin, ou de pas allaiter au début, au final, c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. Ouais. Donc ça, c'est mon truc essentiel. Et le deuxième, je pense qu'idéalement, s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de calculer, de noter, de compter, et de plutôt se dire c'est un temps où je vais vivre au rythme de mon bébé, et puis voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement?
Que je m'attendais pas à ce que pendant qu'il tète, il fasse caca en même temps.
Ok.
Ça, c'est peut-être mon anecdote insolite.
Ça vient après, patience.
Non, ouais, je pense que j'ai fait le tour un peu. En tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler, parce que des fois, quand on a allaité juste quelques mois, et en plus de ça, qu'au bout de 2 mois, on avait envie d'arrêter, j'ai jamais trop considéré que ça intéresserait quelqu'un mon histoire. Pourtant, j'avais l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose de... C'est 4 mois dans ma vie, mais pour moi, c'est comme un an, quoi. C'est
ouais.
vraiment pas juste une petite parenthèse. Ça a été vraiment une expérience intense.
Bien
c'était
sûr.
C'était pas une petite parenthèse, quoi.
Ah ouais, un jour, un mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans, c'est toujours intense, l'allaitement.
Ouais, c'est très riche. Et puis, c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre dans la vie. Enfin, en ça, je trouve ça assez incroyable, quoi. Il n'y a aucune comparaison sur Terre.
Alors du coup, est-ce que tu essaieras de comparer avec une deuxième fois?
Alors voilà, ça c'est ça a été tout un processus parce que là on essaye d'avoir un deuxième enfant.
Mmh.
Et comme pour Félix, hein, ça, on avait mis un peu plus d'un an, donc on se dit que voilà, on est un peu parti sur le même schéma pour un deuxième. Et j'ai vraiment dû me dire que j'allais pas allaiter.
Mmh.
Pour maintenant me dire je suis prête aux deux, mais je sens que j'ai envie de réessayer. Je sens que j'ai
D'accord.
envie de réessayer parce que il y a vraiment ce côté donner le sein, quoi. Je trouve ça je sais pas comment trouver l'adjectif. C'est vraiment quand je m'imagine avec mon bébé, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, quoi.
Ouais, dans ton imaginaire de toi et un futur bébé,
ouais, et
y a
même
une
physiquement une manière de dont j'ai envie de connecter.
Mais cette fois-ci, tu te mettras pas de pression. Tu te
voilà,
laisseras vivre.
Je me mettrai pas de pression et je me ferai accompagner si besoin. Et ça durera le temps que ça durera. Je pense que j'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps. Et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser, j'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser. Et voilà. Donc je me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi. Je me dis juste, je ferai le temps que ça me convient, en fait.
Ouais.
Et voilà.
Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance pour ton futur deuxième bébé, c'est des coussinets d'allaitement en pack, c'est ça.
C'est ça. Ultra absorbant. Pourquoi ils font pas les, tu sais, il y a les serviettes hygiéniques avec différents types d'absorption. On pourrait imaginer aussi.
Non, petit tips, ceux qui sont lavables,
ouais.
Au moins sont réutilisables.
Oui.
Ouais.
Et c'est vrai.
Ont un peu la texture gant de toilette, finalement.
Oui.
En un peu plus doux.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Bonne
voilà.
idée.
Voilà, voilà. Envoyez un pack quand même, hein, parce que moi, pour avoir utilisé les lavables, autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité
ah ouais.
pour une journée. Mais ça a le mérite d'être réutilisable.
Voilà. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal.
Parce que je sais pas, hein, mais il me semble que quand même... Quand c'est comme ça, on peut rentrer dans un gang de mamans qui ont trop de lait.
Oui, c'est ça.
Ah bah, la deuxième fois, il y a peu de chances que tu en manques, sauf si ton bébé a une succion dramatique.
Mais pour te dire, en fait, pour tomber enceinte de Félix, j'avais fait un test hormonal, un test sanguin pour voir mes hormones. Et en fait, j'avais la prolactine. Donc déjà, avant de tomber enceinte la première fois, hein, la prolactine tout en haut.
Mmh.
C'est-à-dire toujours dans la norme, mais au max.
D'accord.
Et je m'étais déjà dit, tiens, c'est drôle. Et moi, déjà, pendant la grossesse, je perdais du lait. J'aurais
ouais,
dû avoir la puce à l'oreille.
Donc, Madeleine, avant de se quitter, maintenant qu'on a bien discuté allaitement, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk?
Avec plaisir.
Madeleine, quelle est ta tétée la plus insolite?
Ma tétée la plus insolite, c'était dans un TER pour les 3 mois. Je me souviens, il avait 3 mois. C'est le week-end où il avait 3 mois, notre fils. On allait à un mariage et le TER était blindé. Il faisait très chaud et il n'y avait aucune place assise. Et j'ai réussi à avoir un strapontin Déjà, je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas. Mais dans le TER, les gens étaient debout.
Dire.
C'est quand même rare. Hein.
Oui.
Les gens étaient debout, il n'y avait pas voilà, assez de place. Et donc, j'ai eu un strapontin. Et là, j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils. D'où l'allaiter, c'est très bizarre de dire faire allaiter.
Ça fonctionne, on a compris.
Ouais, j'ai eu besoin de l'allaiter. Et déjà, la personne à côté de moi a été extrêmement gênée. Oh, je me dis, c'est vraiment le moindre de mes soucis. Là, ouais, dans ce TER blindé et chaud.
Mais dans deux secondes, tu vas te prendre un jet de lait, donc à ta place.
Je précise que j'avais un pantalon blanc. Et que s'est-il passé? Mon fils a fait une selle explosive.
Oh non!
Qui a débordé de partout. Il était en pyjama, là, ou je sais pas quoi, et jusque sur mon jean blanc. Et mon mari, il a pris une photo, donc pareil, j'ai une photo de ça.
Et ton voisin, il a dit quoi?
Bah ouais, non, mais elle regardait pas du tout, c'était une dame, je crois. Et elle regardait pas, et je la sentais vraiment à se coller à la vitre, genre, oh là là. Et moi, je pouvais plus bouger, j'étais là, mais c'est pas possible, comment on va s'en sortir? Et donc, je me suis dit, mais. Là, vraiment, j'étais pas bien et en même temps, on en a rigolé. Mais je me disais, comment on peut se retrouver dans une situation comme ça? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi là le. Il est où le bouton aide? Ouais, c'est quoi le plan? Voilà. Bon, bah, on s'est débrouillé. Hein. On l'a changé dans la poussette qu'on a rouverte, la petite yo-yo là, dans le wagon. Et on s'est débrouillé. Et puis voilà quoi. Après, je me suis changée quand on est arrivé à l'hôtel. Mais ouais, non, franchement, ça, c'était quand même pas mal.
T'étais sympa.
Ouais.
C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement?
Alors, glamour, je sais pas du tout.
Ça peut être ironique.
Ah ouais. Non, bah, je pense que le plus glamour dans l'allaitement, c'est les photos. C'est de le voir en photo au sein. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un petit côté... Je ne sais pas si c'est glamour, mais en tout cas, c'est beau. Quoi. Il y a un petit côté doux. Et... Enfin, je trouve que l'allaitement est plus doux en photo qu'en pratique.
Tu préfères le voir en photo.
C'est ça.
Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Madeleine?
Alors, à l'unanimité, allongée sur le côté...
Ouais.
Mais c'est mes meilleurs souvenirs, quoi. Vraiment dans le lit. Puis en plus, comme c'était vraiment mes 4 mois d'allaitement, c'était canicule. Hein. Il a fait chaud de juin à octobre. Hein.
Ouais, tout à fait.
Donc je me souviens, ouais, il n'y avait pas besoin de drap ou quoi. Et on dormait comme ça. Il était contre moi. Et du coup, je pouvais dormir et il pouvait retéter dès qu'il avait besoin. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est la position royale, quoi.
Ok. Alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu donnerais lequel?
En un mot, mon allaitement... Débordant.
Je me doutais que tu allais dire un truc sur l'hyperlactation, parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps.
Bah, débordant de lait et puis débordant parce que tout le temps, quoi. C'est tout le temps au sein, le petit.
Et débordant d'amour aussi?
Mais oui, débordant d'amour aussi, carrément. Non, mais vraiment.
Ça débordait de tout, ça dégoulinait de tout.
Exactement.
Ok. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir répondu
à
toutes ces questions, d'avoir livré ton expérience qui, même si tu peux de loin penser qu'elle n'intéresse pas, parce qu'une expérience de 2 mois, plus 2 mois d'allaitement comme ça, 2 mois complets et 2 mois à essayer de sevrer, mais si bien sûr que ça va aider, c'est ça aussi la réalité de l'allaitement, c'est que la reprise du travail arrive, que toi tu as repris à 4 mois, mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt, et que voilà, le sevrage fait partie de l'histoire. Et que, voilà, comme je le dis souvent, c'est parfois galère à mettre en place, mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite, c'est une autre paire de manches. Et c'est important d'en parler. Parce que, voilà, c'est la réalité du postpartum aujourd'hui. Et en plus en France, c'est que la plupart du temps, il faut reprendre le travail en présentiel relativement rapidement et que c'est pas toujours facile à gérer. Voilà, l'hyperlactation, merci de nous avoir raconté ça. Parce que pareil, c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait.
Ah ouais.
Et il y a quand même toujours cette histoire derrière de mais de quoi tu te plains en fait? Parce que t'as assez de lait et il y a tellement d'histoires de mamans qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre alors que c'est quand même sacrément emmerdant. de dégouliner toute la journée.
Un problème incompris.
Ouais, moi je disais toujours, c'est mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible.
C'est ça, exactement.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Si vous voulez suivre Madeleine, ça se passe sur le compte Postpartum ta mère. Donc où elle vous expliquait qu'elle vous raconte plein de choses, vous déculpabilise, vous sensibilise, vous informe autour du postpartum. Et c'est un compte qui fait du bien. Donc si vous êtes future maman, surtout connectez-vous à ce genre de compte. Allez vous informer, mais voilà, dans la bienveillance. C'est pas pour vous faire peur, juste pour vous dire ce qui peut vous arriver et puis qu'il y a des solutions à tout. Et surtout, vous n'êtes pas seule, que ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste. Alors n'hésitez pas à suivre Madeleine si vous la connaissez pas déjà. Très bien, Madeleine. Je te dis à très bientôt alors. Hâte que tu me racontes ta deuxième expérience, que ce deuxième bébé arrive aussi vite que vous le souhaitez et qu'il soit un peu moyennement ou passionnément ou énormément allaité ou dégoulinamment. tu nous raconteras. Okay.
Ce sera la surprise.
Parfait.
Merci beaucoup.
Mais de rien. Merci d'être venu dans Milkshaker et bravo, c'était du milkshaking de qualité. À tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I lock myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.